Sensible aux grands enjeux environnementaux de notre société, l'espace Chemin Bidérac axe sa programmation 2018-2020 autour de la thématique de l'eau vitale. C'est dans ce cadre que la structure accueille du 1er mars au 31 juin l'exposition Tara au cœur de la machine climatique, une exposition photographique de François Aura, chef de pont sur Tara et talentueux photographe. Trois classes de CM2 et 6e des établissements scolaires de Saint-Palais sont parties à la rencontre de François Aura. Dans cet épisode de Ta Radio, partons à la découverte des études scientifiques.
Allô ?
Oui, bonjour François, c'est Joël de Chemin Bidéac.
Oui, bonjour, ça va ?
Bien, et vous ?
Oui, ça va.
Vous êtes en haut-parleur et cette conversation est enregistrée.
D'accord, ben, bonjour à tous les élèves.
Alors, j'ai un groupe de... Est-ce que déjà vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes en ce moment ?
Alors là, on est à Lorient en ce moment.
À Lorient.
Le bateau est à Lorient, en fait. On a sorti le bateau pour faire un arrêt technique, pour faire des réparations sur le bateau.
D'accord.
Donc, voilà, il y a pas mal de travail à faire dessus, d'étanchéité, il y avait de l'eau qui rentrait un peu partout. Voilà, le bateau, il a 30 ans, donc tous les ans, on est obligé de faire des travaux, et ça se passe en ce moment, en fait. Voilà. On profite de cet hiver, en fait, pour faire ça.
Ok. Donc, vous n'êtes pas sur l'eau.
Non, on n'est pas sur l'eau en ce moment, on est à terre.
Ok, parfait. Bon, je vais vous passer à un groupe de filles qui sont avec moi et qui vont vous faire une petite présentation. Et ensuite, la première question.
Ok.
Bonjour, nous avons vu votre exposition photo avec Joël Susperegui.
Nous aimerons vous poser quelques questions.
Pourquoi avez-vous étudié les coraux en particulier ?
En fait, on étudie tout ce qui se passe sur les océans. En fait, la particularité de ce bateau, le Tara, c'est de naviguer avec des scientifiques et d'essayer de comprendre comment fonctionnent les océans. Donc, on a commencé par faire des expéditions sur le plancton pour savoir un peu ce qu'il y avait dans l'eau parce que c'est très méconnu. Les océans, ça va jusqu'à parfois 8000 mètres de profondeur. Donc, personne connaît, en fait, ce qui se passe sous l'eau et il se passe plein de choses, en fait, aussi, autant dans les océans que dans les forêts. Et donc, le but des scientifiques, c'était d'étudier les coraux, cette fois, pour essayer de comprendre, parce que les coraux vont pas très, très bien, en fait, avec le réchauffement climatique. Il y a des endroits où ils sont en bon état, des endroits où ils sont pas en bon état. Donc, le but de l'expédition, c'était de comprendre pourquoi, en fait.
Bonjour, je m'appelle Amaya.
Bonjour.
Pourquoi le corail est-il si peu résistant au changement ?
Le corail, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai peut-être pas une réponse tout à fait exacte. Le corail, c'est un animal, donc il est très fragile par rapport aux différences de température et par rapport à l'acidité de l'eau. Donc c'est un peu comme nous, hein, quand on respire de l'air qui est pollué, on a tendance à tousser ou à faire des allergies. Le corail, c'est exactement pareil. Quand il fait trop chaud, on transpire, on n'est pas bien, et quand il fait trop froid, on a froid et il faut se couvrir. Le corail, il réagit comme un animal. Donc dès qu'on lui met des contraintes, il est soit il meurt, soit il résiste, mais il est très très fragile en fait. Et il dépend de l'algue, il dépend du calcaire. Si l'algue elle meurt, le calcaire est blanchi. C'est assez complexe, mais vu que c'est un animal, scientifiquement, il faut qu'il ait un milieu très sain en fait pour vivre.
Bonjour. Sous quelle forme
Bonjour.
Déchets plastiques dans les eaux ?
Un peu toutes les formes, en fait. Ça dépend du temps qu'il a passé dans l'eau, en fait. Donc, quand on navigue, on voit un peu de tout. On voit des bouteilles qui sont des bouteilles en plastique qui sont entières, qui arrivent directement quand il y a des crues, par exemple, dans une ville, quand on passe aux abords d'une ville, s'il a plu une semaine avant, tous les déchets vont partir dans la mer. Donc là, ils vont pas être décomposés. Par contre, on a fait des traits de filet. On traîne un filet qui s'appelle le manta. Et là, on récupère des déchets plastiques qui sont tout petits, en fait. Qui c'est du microplastique, en fait. Il est presque invisible. Donc là, il est déjà en état de... Il est décomposé, en fait. C'est ce qu'on appelle du microplastique.
À quel endroit de l'océan Pacifique avez-vous prélevé du corail ?
Ouh là là. Alors là, on a fait tout le tour du Pacifique. Donc, on est allé dans les endroits où il y avait le plus de corail au monde. On a commencé par la Polynésie. Non, on a commencé par Panama. Donc, après le canal de Panama, il y a des îles qui s'appellent les îles Las Perlas. Et donc là, on a commencé à faire des prélèvements. Après, on est allé sur Malpelo, en Colombie. Après, on est allé en Polynésie. Après, on a fait toute la grande barrière de corail en Australie. On a fait la Nouvelle-Calédonie aussi, Chesterfield. C'est des îles qui sont entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Voilà, on a fait un peu tous les endroits où il y avait des grosses concentrations de corail, en fait. C'est pas forcément les endroits où le corail est en meilleur état, hein, c'est les endroits où il y en a le plus, en fait.
Comment faites-vous pour planter du corail ?
Pour le planter, alors il y a des systèmes qui s'appellent le bouturage, c'est comme les plantes. On casse le corail, on le rattache après un morceau de pierre, de la roche, et il va pousser, et en fait, il va fabriquer du calcaire, et il va se fixer sur le... Mais ça, on n'a pas fait ça. Hein. Ça, il y a des laboratoires qui font ça, qui replantent des morceaux de corail dans des endroits où il n'y en a plus beaucoup. Et on a vu beaucoup aussi au Japon des récifs artificiels. Donc les gens fabriquent des récifs en béton, ils les mettent dans l'eau, et ils réimplantent du corail dans des endroits où il n'y en avait pas.
Dans quel état est le plancton lorsque vous le ramassez ?
Alors, quand on ramasse le plancton, il est vivant. Donc, on a la chance de pouvoir voir du plancton au microscope, au bouger, des larves de méduses, enfin, plein de tout ce qui est petit, en fait. C'est assez des larves de poissons. Enfin, tout ce qui est plancton, en fait, on le voit vivant. Après, on le met dans des congélateurs, donc forcément, ben, il meurt. Mais au moment où on le récolte, en général, il est vivant.
À quelle profondeur le filet descend-il pour faire les prélèvements ?
Alors, ça dépend des prélèvements, en fait. Il y a différents types de filets. On a des filets pour le plancton qu'on utilisait pendant Tara Océan. C'était une expédition sur tous les océans où, là, du coup, on avait des filets qui allaient jusqu'à 1500 mètres, qu'on descendait avec un treuil, avec un câble. Là, sur la dernière expédition qu'on a fait et sur les expéditions où on récolte le plastique, ce sont uniquement des filets de surface. C'est des filets qu'on traîne derrière le bateau, en fait. On ne les descend pas en profondeur. On récolte le plancton, le plastique, tout ce qu'il y a en surface. Et la surface, c'est entre 0 et 1 mètre environ. Et nous, on avance à une vitesse régulière pour ne pas abîmer le filet. Faut pas, les filets sont assez fragiles en général, donc il ne faut pas aller trop vite. Et ces filets restent en surface, en fait. Voilà. Et après, on récupère ce qu'il y a dans le filet sur le bateau et on analyse les échantillons dans les laboratoires.
Combien de temps laissez-vous le filet dans l'eau et à quel moment de la journée ?
Ça dépend, en fait. Ça dépend de ce qu'on veut récolter, en fait. Si on veut récolter du plastique, en général, on le fait deux fois par jour. C'est des filets qu'on fait en général vers midi ou le soir, à la tombée de la nuit. On fait deux filets par jour parce qu'après, il y a beaucoup de travail de tri, en fait. Parce que quand on fait un filet, on peut pas faire des filets toute la journée. Parce que sinon, les scientifiques, ils passeraient leur nuit à faire des échantillonnages. Après, il faut mettre tous les échantillons dans des petites éprouvettes. Il faut filtrer l'eau. Et donc, c'est très, très long, quoi. Il y a un gros travail après le filet. Donc, en général, on fait un ou voire deux filets dans la journée. Et des fois, on en fait la nuit. Parce que la nuit, le plancton remonte, en fait. Et là, il y a des filets intéressants à faire. Parce qu'il se passe des choses la nuit aussi dans les océans. Donc, voilà.
Avez-vous déjà des résultats d'analyse ?
Alors, les résultats des analyses, on a pas mal de résultats sur l'expédition Tara Océan. Là, il faudrait aller sur les sites internet de Tara Océan pour voir exactement tous les résultats. C'est encore en train d'être analysé. Il y a 10 ans de travail. Après une expédition de 3 ans, il y a à peu près 10 ans de travail dans les laboratoires pour tout analyser. Parce qu'on a fait, je crois, sur Tara Océan, on a récolté 36 000 échantillons de plancton. Donc, ça va dans différents laboratoires. Ça va au génoscope pour étudier toute la génie. Et puis, ça va dans d'autres laboratoires pour les bactéries, pour les virus. Donc, c'est très, très long. Donc, tout n'est pas sorti encore. On est encore en train de chercher dans les laboratoires.
OK. Bon, bah, c'est parfait.
Bon, bah, c'est sympa.
Merci beaucoup. Ils vont vous
dire... De rien. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.